Maître Suzanne mettait une certaine coquetterie à laisser entendre auprès de ses amis qu'elle se souciait fort peu du standing de son véhicule, qu'elle s'arrangeait très bien de conduire une Twingo de 20 ans toute cabossée, même qu'elle trouvait plaisir à se montrer indifférente à d'aussi conventionnelles questions de prestige. Maître Suzanne ne détestait pas que ses amis l'imaginent ainsi. Libre, folâtre, indépendante d'esprit, espérant en son fort intérieur que de telles appréciations finiraient par la modeler, par la contraindre de s'y ajuster et qu'elle deviendrait réellement une femme au charme discrètement excentrique. Maître Suzanne savait qu'elle se forgeait sur ce point des fantasmes. Elle rêvait d'avoir les moyens d'acquérir une belle, une grosse, une fastueuse voiture. Elle avait pris en grippe sa vieille Twingo sympathique et sentait d'ailleurs que ses parents comprenaient mal qu'elle roule encore dans un tel véhicule alors qu'ils la croyaient prospère, puisque c'est ainsi qu'elle se présentait à eux, qu'elle leur racontait sa vie et ses affaires. Elle avait travaillé dans un gros cabinet de Bordeaux, puis décidé 2 ans auparavant de monter le sien, de se lancer, comme disaient ses parents, sans avoir la moindre idée de ce qu'il leur fallait penser d'une telle initiative. Il se fiait à la voiture, savait Maître Suzanne. Les modèles et la marque étaient pour eux l'étalon indiscutable de la réussite ou de l'échec. Ils avaient raison. Ils avaient raison.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Maître Suzanne a quitté un cabinet d'avocats prospère à Bordeaux pour s'établir à son compte à une adresse prestigieuse. Mais les clients ne se bousculent pas. Alors, elle ment à ses parents, qui, d'origine modeste, ont toujours eu de grandes ambitions pour elle. Mais un jour, une affaire importante lui est proposée, celle d'une femme qui a tué ses 3 jeunes enfants. Et c'est le mari éploré qui la sollicite, un homme en qui elle est certaine de reconnaître l'adolescent qui, lorsqu'elle avait 10 ans, a changé sa vie lors d'une journée dont elle garde un souvenir flou, à la fois enchanté et vaguement terrifiant. Avec cette rencontre, et alors même que cet homme ne semble pas la reconnaître, la vie apparemment ordonnée de Maître Suzanne va être violemment bouleversée. La vengeance m'appartient, dernier roman de Marine Diaye paru chez Gallimard, nous agrippe dès les premières lignes et ne cesse de nous chambouler, sans que nous parvenions à nommer clairement les émotions qu'il fait naître en nous. Car, comme chez Kafka, à qui on ne cesse de penser, il y a des histoires secrètes qui affleurent sous l'histoire qui nous est racontée ici. La merveilleuse langue de Marine Diaye, sinueuse, inventive, complexe et subtile, nous entraîne sous la surface des mots et nous donne à percevoir une autre réalité que celle, apparemment banale, qui est décrite. Son personnage, cette maître Suzanne qui s'exprime ici à la première personne, sent, devine, croit voir et sentir des choses affreuses derrière l'apparente normalité des situations qu'elle traverse. Et à la fin, le mystère demeure, comme dans nos vies. Bonsoir Marine Diaye.
Bonsoir.
Vous avez travaillé pendant 2 ans avec Alice Diop sur le procès de Fabienne Cabou, cette mère infanticide qui avait déposé sa petite fille de 18 mois, bien aimée, semblait-il, sur une plage, pour la faire noyer par la marée montante. C'est un fait divers, sidérant, qui sidère notamment toutes les mères, tous les parents. Devant l'incompréhensible, c'est ce type de fait divers qui vous inspire des livres parfois.
C'est ce type de fait divers qui m'a inspiré une des histoires du livre ou un des fils du livre et ce personnage surtout de Marlene Principeau, la mère infanticide dont Maître Suzanne va prendre la défense. Mais d'une façon générale, les faits divers m'inspirent peu. Je crois que c'est la première fois que je peux dire avec certitude qu'un fait divers ou qu'un type d'histoire réellement arrivé m'ont inspiré.
Et pourtant, les faits divers, alors en dehors de Fabienne Cabou, les faits divers où justement des vies apparemment normales révèlent soudainement des gouffres, des fractures, des crimes qui ne sont pas compréhensibles. Ça fait souvent penser aux histoires que vous écrivez, Marine Diaye, où des personnages semble sentir des frémissements que le commun des mortels ne perçoivent pas. La plupart de vos héroïnes, parce que vous écrivez la plupart du temps sur des femmes, elles ont comme des antennes, mais pour percevoir le mal plus que le bien. Est-ce que c'est exact ce que je suis en train de dire ?
Oui, ça me semble très juste. Maître Suzanne, dans le livre, en effet, est ultra sensible. Et cette sensibilité extrême, d'ailleurs, parfois la trompe, l'emmène sur des voies qui ne sont peut-être pas les plus justes, les plus sûres. Elle a une perception des choses et des gens qui l'entourent, quand même souvent frappée au coin de sa propre culpabilité ou d'une mauvaise conscience dont on ne sait pas exactement d'où elle provient, car apparemment, Maître Suzanne est une femme honnête, simple, droite et qui a surtout à cœur d'aider les autres. Elle n'a a priori rien de grave, en tout cas, à se reprocher. Et elle semble tout le temps peu sûre de ce fait-là, peu sûre de n'avoir rien à se reprocher.
La culpabilité, la honte, est-ce que pour vous, Marine Diaye, c'est le ressort intime, au fond, de la plupart des gens, en tout cas des personnages de livres qui vous intéressent ?
Disons que c'est le ressort intime de la plupart des personnages que je construis. Je ne dirais pas que c'est ce qui m'intéresse le plus dans la littérature qui m'a formée et que j'aime. De ce point de vue-là, je travaille avec mes ressources qui sont limitées. Je n'ai pas finalement un champ d'action imaginaire très vaste. Donc, j'œuvre avec
J'espère, mais les auditeurs ne voient pas mes sourcils se lever. Non, je suis étonnée de vous entendre dire ça. Ce n'est pas des moyens limités. C'est étonnant de vous entendre dire ça. Ce n'est pas l'impression qu'on a en vous lisant.
Ah, mais moi, je le sais. J'œuvre avec mes outils qui ne sont pas considérables. Ma boîte n'en est pas pleine. Il y a beaucoup de manques. Mais ce n'est pas inintéressant d'essayer de faire au mieux avec ces insuffisances dès lors qu'on les a reconnues et admises et qu'on n'en souffre pas outre mesure. Mais j'aurais aimé aussi être de ces auteurs qui brassent les siècles, les généalogies et qui peuvent brosser avec brio et des fois même grand art des fresques, ce dont je me sais incapable, donc je travaille à l'intérieur de limites que j'essaye parfois de repousser, mais qui ne sont pas repoussables très loin.
Alors vous citez souvent Marine Diaye pour les auteurs qui vous inspirent, des gens comme Joyce Carol Oates ou William Faulkner, mais moi, tout de suite, j'ai pensé à Kafka. D'abord parce que Maître Suzanne a un nom et pas de prénom. Joseph K. a un prénom et pas de nom, mais comme dans les livres de Kafka et pour les personnages de Kafka, il y a ce sentiment de menace imminente, indistincte, des choses curieuses qui se produisent dans la vie de Maître Suzanne, beaucoup de choses se produisent absolument infimes. Elle croit ne pas avoir donné la clé de son appartement, elle en est même certaine à son ancien petit ami, lequel là rentre et dit « mais oui, tu me l'as donné ». Et la vie de Maître Suzanne, lisse apparemment, est pleine de ces petits détails signifiants. Mais exactement comme chez les personnages de Kafka, il y a des quantités de choses qui disent un autre monde menaçant.
J'ai en effet énormément lu Kafka, c'est un des écrivains qui ont le plus compté pour moi. En effet, il y a dans la vie de Maître Suzanne des bizarreries minimes, mais dont on ne sait pas toujours si elles sont réelles ou si elles sont aussi le fruit de son imagination ou le fruit de cette capacité de percevoir des choses peut-être imperceptibles pour les autres, mais qui sont parfois réels et parfois peut-être pas.
Alors, dans ces choses qui la déstabilisent, il y a, et sans doute beaucoup de femmes vont se sentir une relation proche avec Maître Suzanne, il y a l'emploi d'une femme de ménage. Elle s'appelle Sharon, elle est mauricienne, elle est sans papier. Maître Suzanne a proposé spontanément de l'aider à obtenir des papiers, ce qui n'est pas très facile. Sharon est une merveille, elle fait très très bien le ménage, mais pour Maître Suzanne, c'est un acte de militantisme. Ça ne peut pas du tout être simplement employer quelqu'un pour nettoyer. D'ailleurs, elle nettoie avant le passage de Sharon. On va écouter la lecture d'une page de votre livre.
Maître Suzanne avait toujours dit ou laissé entendre à Sharon qu'elle préférait savoir celle-ci s'occupant paisiblement de ses enfants, les aidant dans leurs leçons et pensant judicieusement à leur lendemain que de la trouver chez elle à une heure tardive. « Cela me gêne, » n'osait lui dire Maître Suzanne, « que vous jugiez indispensable de récurer une baignoire dans laquelle je ne me plonge jamais, de laver chaque semaine des vitres propres au travers desquelles, du reste, mon regard ne se porte guère, et des WC que je nettoie scrupuleusement chaque jour afin que vous n'ayez jamais à souffrir du moindre contact avec mon intimité. Oui, » n'osait lui dire Maître Suzanne, « cela me gêne grandement que vous preniez à la lettre mon souhait d'employer quelqu'un qui veille sur mon intérieur et que par honnêteté, vous trouviez le moyen de passer des heures à parfaire maniaquement ce que j'ai déjà accompli par décence, par pudeur. Cela me gêne, oui, ne pouvait dire à Sharon, Maître Suzanne, qui n'avait jamais éprouvé jusqu'alors le besoin d'avoir une femme de ménage, qui avouait même, contre un tel besoin, une indéniable prévention. Sharon, je vous emploie par militantisme, pour vous aider et favoriser une cause que je défends. Aussi n'est-il pas nécessaire que vous vous montriez envers moi scrupuleuse, probe, irréprochable, comme si vous pouviez craindre que je ne sois pas satisfaite de vous. Je le serai toujours, Sharon, puisqu'à la vérité, je ne vous demande rien. Ne lui disait pas Maître Suzanne, par décence encore, bien que d'une autre nature. Son cœur surpris ne s'était pas apaisé lorsque Sharon vint à sa rencontre dans le couloir. Maître Suzanne lui donna, selon son habitude, une brève accolade. Elle sentit son cœur cogner contre la poitrine muette, tranquille, imperturbable de Sharon, qui jamais ne manifestait physiquement, toujours forte, fataliste et gaie, que sa vie pût être plus difficile que celle de Maître Suzanne. Même, il semblait parfois à celle-ci que Sharon la plaignait.
Marine Diaye, dans les relations entre Maître Suzanne et sa femme de ménage, Sharon, il y a un silence du côté de Sharon et beaucoup d'imaginaire du côté de Maître Suzanne. Elle va même jusqu'à dire, sous votre plume, qu'elle a une odeur spécifique, une odeur de flétrissure, comme si Sharon sentait sur elle sa honte. Le fait que Maître Suzanne sent qu'elle est inapte à employer quelqu'un, qu'elle est coupable de quelque chose lorsqu'elle emploie une femme à qui elle donne un bon salaire pour travailler. Il y a quelque chose aussi de la honte sociale, parce que la mère de Maître Suzanne était elle-même femme de ménage. Est-ce qu'il y a dans le cœur de ce livre aussi un ressort qui s'appelle la honte sociale ?
C'est possible, même si Maître Suzanne, donc, qui est devenue avocate alors que le milieu très modeste de ses parents ne la prédisposait pas du tout à exercer une telle profession, même si Maître Suzanne est fière d'être devenue ce qu'elle est et fière aussi d'avoir rendu ainsi ses parents heureux et fière également. Elle les aime, ils l'aiment, elle a toujours cherché à leur complaire et eux l'ont aidé du mieux qu'ils ont pu. Donc elle n'est pas... Elle se sent quand même à sa place là où elle est, surtout que c'est une place qu'elle a durement conquise. Mais en effet, peut-être ce qui la gêne dans le fait d'employer Sharon, c'est qu'elle ne peut pas dire à Sharon qu'elle n'a aucun besoin de ses services et qu'elle est même gênée de gaspiller cette jeune énergie, cette force de travail chez elle inemployée. Et Elle a l'impression, en effet, que Sharon sent sur elle, Maître Suzanne, quelque chose de trouble, quelque chose de sale, mais qui peut-être vient de plus loin, vient de l'enfance de Maître Suzanne, où il s'est peut-être passé quelque chose de merveilleux, et peut-être quelque chose qui n'était pas du tout merveilleux. Mais avant que Sharon n'entre dans sa vie, Maître Suzanne n'avait pas du tout conscience de porter quelque chose de trouble en elle. C'est, encore une fois, peut-être son excès de sensibilité qui lui fait imaginer que Sharon ne se méfie d'elle, ne l'aime pas, voire elle est dégoûtée par elle, alors que ce n'est pas du tout certain, et que rien, en tout cas, chez Sharon ne le démontre. Simplement, elle trouve Sharon peu affectueuse envers elle, mais Sharon est peut-être juste ainsi qu'on doit l'être quand on est employé, alors que Maître Suzanne voudrait être aimée de la pure Sharon.
Pure ou pas si pure, parce que Sharon lui ment beaucoup aussi, et elle lui prépare également, quand elle veut la remercier, une quantité féerique de petits plats que vous décrivez très minutieusement, Marine Diaye, et ça fait penser au livre précédent, La Chef. Il y a toujours dans vos livres ce côté offrande de la nourriture, précision de la préparation et délice absolu de la dégustation. Pour vous aussi, c'est important, cette irruption tout d'un coup de la chaleur humaine dans cette histoire qui est parfois assez glaçante.
Oui, mais si Sharon offre ce repas de féerie à Maître Suzanne, c'est moins pour la remercier, parce que Sharon ne remercie guère, que pour s'excuser, parce que Sharon a trompé Maître Suzanne ou lui a menti par omission, et elle ne s'excusera pas, c'est quelque chose qu'elle ne souhaite pas faire ou ne peut pas faire, mais en offrant ce petit festin à Maître Suzanne, elle le fait à sa manière, et Maître Suzanne le comprend très bien et n'en a que plus de gratitude envers Sharon.
Mother, you had me. But I never had you. I wanted you, but you didn't want me. So I just gotta tell you, goodbye, goodbye. Father, you left me, but I never left you. Goodbye, goodbye. never left you. Oh, I needed you. You didn't need me. Gotta tell you, goodbye, goodbye. Oh, don't go.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
La mère de Marlene et les deux sœurs refuseraient de la revoir après les meurtres ou les assassinats. Elle n'avait d'ailleurs rendu que de rares visites à Marlene quand celle-ci avait eu ses enfants, comme si Marlene avait démérité inexorablement en choisissant ce mode de vie. Et les sœurs d'ailleurs n'en avaient pas, elles, d'enfants, sans que Maître Suzanne pût affirmer cependant que ce fait procédait de leur décision. Ni la mère, ni les sœurs n'avaient semblé en tout cas profondément, douloureusement atteintes par la disparition de Jason, de John et de Julia, qu'elles avaient finalement peu connues. Mais la déchéance grotesque de Marlene les avait blessées à jamais. Maître Suzanne avait même l'impression que l'horreur du geste de Marlene, elles pouvaient toutes trois, mère et sœur, l'endurer, qu'elles pouvaient se figurer la scène sans se sentir pénétrées par cette horreur. Ce qu'elle ne pouvait pardonner à Marlene, pensait Maître Suzanne, C'était de s'être enfui si loin d'elle moralement en épousant principaux, en abandonnant sa carrière pour élever les enfants de principaux. En somme, de s'être plié à toutes les injonctions plus ou moins énoncées de ce principaux, qui avait été assez malin de ce point de vue, se disaient les sœurs et la mère selon maître Suzanne, pour se marier avec une femme d'un milieu bien inférieur au sien. Elle n'osait pas le contredire, dirait l'une des sœurs. Et l'autre ? Il lui en imposait, il venait de la bourgeoisie, il était plutôt autoritaire d'ailleurs sous ses airs cool. Et la mère ? Il s'est ingénié à la convaincre qu'elle ne valait pas grand-chose, il a brisé toute sa confiance en elle. Je ne la reconnaissais pas quand j'allais la voir, alors je me suis éloignée, ça me mettait en rogne.
Marine Diaye, on vient d'écouter la façon dont maître Suzanne raconte l'histoire avant son mariage de la mère infanticide, donc Marlene Principeau, qui a tué ses trois enfants, et sa mère et ses deux sœurs semblent plus affectées par le fait qu'elle avait abandonné son travail d'enseignante pour devenir mère au foyer et élever ses enfants, plutôt que par le geste qui a conclu cette histoire. Il y a chez Marlene Principeau un mystère, celui d'une femme faible, apparemment, qui tout d'un coup manifeste sa toute-puissance en supprimant des enfants devenus pour elle des objets, des témoins d'une vie qu'elle rejette. Et au lieu de tourner sa colère, sa haine contre le père des enfants, elle la tourne contre les enfants. Et dans ce livre, c'est le mystère insondable. C'est quelque chose devant lequel le lecteur bute. Comment vous avez écrit la scène du meurtre? Comment arrivez-vous à vous éloigner suffisamment des faits que vous racontez?
En fait, ce n'est pas moi qui raconte les meurtres, qui fait ce récit-là. Je le fais faire par la mère, Marlene, qui raconte à sa manière et qui raconte en des termes assez détachés, comme si elle était peut-être pas incapable de se rendre compte des sentiments que peut éprouver la personne à qui elle raconte une telle atrocité, mais plutôt comme si ça lui était indifférent, ce qu'on peut penser d'elle ne lui importe pas. Mais c'est le mystère, l'énigme profonde d'un tel geste, c'est ce qu'on éprouve en lisant ces récits de mères infanticides. Dans le cas où les mères en question étaient, selon leurs proches, exemplaires, remplies d'amour, voire parfois excessivement inquiètes pour leurs enfants, il y a des cas, bien sûr, d'infanticide où l'enfant finit par mourir à force de coups. Mais ça c'est encore vraiment autre chose. Là, c'est ces mères tellement dévouées qui finissent par ne plus supporter les objets de leur dévouement et qui les font disparaître. Ça reste extrêmement difficile à comprendre. Il m'a seulement semblé pouvoir sentir que cet amour immense qu'elles semblaient avoir pour leurs enfants n'en était pas, et qu'il y a au fond une absolue froideur, et que c'était un amour composé, joué, pas forcément consciemment, pas forcément dans l'intention de tromper. En général, elles ont cru elles-mêmes à leur amour de mère merveilleuse, mais elle ne tourne pas non plus sa haine contre son mari, parce que elle n'a pas grand-chose à lui reprocher. Finalement, il a ses défauts, mais il est un mari convenable. Et elle dit à un moment, de toute façon, on ne peut pas tuer principaux. Elle avait l'impression qu'elle ne pouvait ni le quitter, ni s'en prendre à lui. Elle le quitte de cette façon-là, et elle s'en prend à lui de cette façon-là.
Et est-ce que dans la fascination et la répugnance que Maître Suzanne éprouve devant Marlene Principeau, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de reconnaissance de l'emprise du rôle joué par la force du regard d'autrui? D'abord, pour Marlene, il y a eu sa mère et ses sœurs qui la poussaient à tenir un rôle professionnel. Ensuite, son mari qui l'a poussée à tenir le rôle de l'épouse effacée et de la mère parfaite. De même que pour Maître Suzanne, ses parents ont voulu la voir en avocate qui réussit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de vertige de la part de Maître Suzanne quand elle regarde ce qui peut arriver lorsqu'on se soumet volontairement au regard prescripteur des gens qui vous aiment?
Oui, c'est vrai. Surtout que dans le cas des Principeaux, Marlene comme Gilles disent bien qu'il ne l'a forcé à rien, qu'il ne l'a absolument pas obligé à quitter son métier de professeur. Elle a cru que c'était ce qu'il voulait et il a cru que c'était ce qu'elle voulait. Et ainsi, ils se sont abusés l'un l'autre. Mais peut-être quand même que Gilles Principeau préférait que sa femme reste à la maison. Et oui, sans doute que Maître Suzanne voit cela aussi dans ce couple et elle peut en cela un tout petit peu se reconnaître en Marlene, même si elle est heureuse d'être arrivée là où elle est. Elle sent toujours sur elle le regard extrêmement censeur, jugeur de ses parents bien-aimés.
Alors, parmi les nombreux mystères qu'il y a dans votre livre « La vengeance m'appartient, Marlene Diaye », il y a ce mystère central qui, évidemment, comme la plupart des autres, ne sera pas élucidé, c'est celui de la rencontre présumée de longues années avant, puisqu'à l'époque, Maître Suzanne avait 10 ans, elle accompagnait sa mère qui allait repasser dans la maison de bourgeois bordelais, et elle aurait passé l'après-midi dans la chambre d'un jeune homme. Personne ne sait ce qui s'est passé dans cette chambre, elle n'en a pas vraiment le souvenir, sauf elle a le sentiment qu'il lui a donné la parole, qu'il l'a écoutée, alors qu'avant elle n'était qu'une petite fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père est persuadé qu'elle a été abusée. Sa mère, non, parce qu'elle dit que cette maison était habitée par des gens merveilleux. Elle n'en sait trop rien, mais elle sait que sa vie a changé à partir de là. Et elle croit reconnaître dans Gilles Principeau, le mari de la mère infanticide, cet homme. Or, cet homme ne la reconnaît pas. En tout cas, il dit qu'il ne la reconnaît pas. Et là, on sent bien que c'est probablement ce qui a changé complètement la personnalité de Maître Suzanne. C'est à partir de ce moment-là qu'elle est persuadée qu'elle a une flétrissure, que les gens sont incapables de l'aimer vraiment, d'ailleurs qu'elle n'est pas aimable. Est-ce que, justement, c'est la clé du livre, ce mystère-là?
Oui, c'est la clé du livre, cette double interrogation qui hante Maître Suzanne à partir du moment où cet homme entre dans son bureau. Est-ce que cet homme a été l'adolescent qui a eu dans son enfance un rôle considérable? Elle se rappelle, Maître Suzanne, elle veut se rappeler une scène enchantée, elle veut se rappeler qu'il s'est passé dans cette chambre quelque chose de merveilleux et qu'il a sans doute d'ailleurs aidé à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et si c'est lui, est-ce qu'il sait qu'elle est cette fillette devenue adulte? Et s'il le sait, pourquoi n'en dit-il rien? Mais est-ce que c'est bien lui? Et si ce n'est pas lui, pourquoi a-t-elle été aussi bouleversée quand il est entré dans son bureau? Et elle va mener une sorte d'enquête auprès de sa mère pour essayer de connaître le nom de la famille chez laquelle donc sa mère était allée faire quelques heures de repassage. Mais la pauvre femme ne se rappelle pas le nom de cette famille. Elle va tenter de se le rappeler. Et peut-être qu'elle va donner à Maître Suzanne le nom exact de cette famille, mais Maître Suzanne n'en sera jamais sûre. Et c'est il y a deux moments qui ont fait basculer la vie de Maître Suzanne, ce moment dans son enfance et cet instant où cet homme entre dans son bureau.
Alors Marie Diaye, dans le livre La vengeance m'appartient, on ne sait pas à qui la vengeance appartient ni quelle elle est dans ce livre, mais il y a quelque chose qui, pour les lecteurs qui ont déjà lu vos précédents ouvrages, est quelque chose de très familier. C'est votre langue si particulière. Parfois, dans le livre, on a l'impression qu'on est enroulé dans des lianes et qu'on est presque happé par la puissance du langage. Et puis, à deux endroits, il y a deux monologues, celui de la mère infanticide, celui du père qui a perdu ses enfants. Et on va écouter celui de Marlene, Principaux, qui commence toutes ses phrases par « mais ».
Mais je ne veux pas être défendue. Mais j'ai posé mon acte. Mais je savais que je n'aurais pas la tête tranchée. Mais cet acte, mais je l'ai accompli. Mais je ne peux pas le regretter, mais ce serait indécent. Mais c'est accompli, mais je l'ai fait. Monsieur Principaux ? Mais je suis certaine que les enfants ne lui manquent pas. Mais il est délivré, mais il souffre, il est bien. Mais il se lamente avec sincérité, mais il souffre réellement, oui. Mais il est délivré ? Mais si je pouvais, grâce à vous, obtenir de ne plus me trouver face à lui au parloir. Mais c'est possible, étant sa femme ? Mais la haine que j'éprouve à son encontre, mais je ne juge pas nécessaire qu'il en prenne la mesure. Mais s'il vous plaît, mais faites qu'il ne vienne plus me voir. Mais je vous en prie, faites aussi qu'il ne sache pas que cela vient de moi. Mais il ne serait pas bon pour lui qu'il prenne la mesure de ma haine. Mais je n'ai aucun désir de le blesser. Mais c'est impossible, mais je comprends. Mais vous ne pouvez pas mentir à ma place, mais je comprends. Mais alors je lui dirai, moi, de cesser ses visites. Mais le pauvre homme... Mais je ne dirai rien contre lui, mais je n'en ai pas la permission spirituelle. Mais il souffre, mais il est bien. Il sirote son... Mais je ne sais plus ce que c'était. Mais whisky, cognac, gin, mais je ne me rappelle plus. Mais il est bien, seul chez nous là-bas. Mais je le vois parfaitement, il... Mais il répond à des courriels où les gens le plaignent. Mais il fait le courageux qui cache ses larmes. Mais aucune larme n'a jamais mouillé même le bord de ses yeux. Mais Monsieur Principaux est fort dans sa sainteté. Mais je ne dirai rien contre lui, mais je ne peux pas faire ça. Mais qui sont les victimes de l'acte ? Mais pas moi, n'est-ce pas ? Mais les enfants et lui, oui. Mais il est bien dans sa solitude. Mais il criait souvent contre nous. Fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille un moment. Mais nous prenions bien garde de nous approcher de lui seulement si nous sentions son corps détendu et son esprit prêt à recevoir le rappel de nos existences respectives. Mais nous lui fichions la paix, mais j'y veillais sévèrement et les enfants m'obéissaient. Mais pourquoi criait-il ainsi ? Fichez-moi la paix ! Mais j'étais toujours anxieuse. Mais qu'il y ait du bruit, mais du désordre, mais des contrariétés.
Un monologue incroyablement écrit, pas facile à lire. Merci à Yaël et la Dade qui a lu tous les textes de ce soir. Il fallait le talent d'une actrice pour arriver à rendre cette langue si particulière. Une langue particulière, Marlene Diaye, la vôtre, celle qui s'adapte à chacun des personnages qui s'expriment. Comment est-ce que vous parvenez, Marlene Diaye, à donner cette musique qu'on reconnaît quand on lit vos livres et qui parfois se change, parce que là dans les monologues c'est pas vous, c'est pas cette écriture sinueuse qui est la vôtre, c'est quelque chose de comme une pensée, comme une parole qui ne s'exprime pas, qui elle est presque muette d'ailleurs, on ne sait pas si elle le dit vraiment ou si elle le pense simplement. Comment parvenez-vous à vous projeter dans des langues si étonnantes, parfois si violentes ?
Je pense que c'est la première fois que dans un roman, il y a ainsi, que j'ai écrit bien sûr, il y a ainsi deux passages dont la langue est très différente de la langue narrative du reste du livre. Je ne sais pas très bien, mais cela m'a peut-être été... inspiré par l'écriture d'un monologue qui a précédé l'écriture du roman, un monologue de théâtre, donc, que j'ai écrit pour Nicole Garcia et qui je l'espère...
s'appelle Royan. On l'attend avec impatience quand les théâtres ouvriront.
Cela aurait dû se faire en 2020 et je pense que c'est simplement reporté en 2021. Mais je crois vraiment que cette écriture de monologue qui m'a beaucoup plu, qui m'a rendue heureuse et joyeuse, même si le propos l'est peut-être moins, je crois vraiment que cette écriture-là a entraîné celle des deux monologues des époux principaux.
Et est-ce que, alors, l'écriture habituelle qui est la vôtre, l'écriture de la narration de ce livre et des précédents, est-ce que ça correspond à votre musique intérieure? Ou est-ce que c'est cette langue de l'écrit, elle est complètement différente de la façon dont vous-même vous parlez dans la vie normale, y compris dans votre tête? Est-ce que c'est une langue vraiment réservée à l'écriture?
J'ai l'impression que c'est la langue de ma pensée, quand même, que c'est la langue de mon flux de pensée, que je réfléchis ainsi en sinuosité et en longues phrases, si tant est qu'on fasse exactement des phrases lorsqu'on pense, mais bien sûr, ce n'est pas la langue de la vie quotidienne, ce serait trop artificiel et étrange, mais d'une certaine manière, ça pourrait l'être, oui, si je me laissais aller.
C'est une écriture qui, pour moi, ressemble au tableau du douanier Rousseau. Ça vous paraît étrange, cette comparaison?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me fait plaisir.
Eh bien, merci infiniment, Marine Diaye, d'être venue nous voir ce soir. Je rappelle que votre dernier livre, La vengeance m'appartient, est paru au début du mois de janvier chez Gallimard. Merci à vous, Marine Diaye, et à bientôt sur la scène des théâtres aussi.
Merci.